Celui qui le fait, c'est une très bonne chose. Celui qui ne le fait pas, aujourd'hui, on mange à table, on mange avec des cuillères, on mange avec des fourchettes. On aime bien aussi les enfants, parce que généralement, les enfants, quand ils arrivent à table, peut-être ils ne se sont pas lavé les mains correctement. Et donc, pour éviter certains problèmes, peut-être leur demander de manger avec des cuillères et des fourchettes, c'est peut-être mieux aujourd'hui. Wallah wa'alam. En tout cas, celui qui le fait dans l'optique de suivre la tradition prophétique, c'est quelque chose de très très bien. الثالث أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منها من يريد ولا يكثر الأكل بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل. Il dit, grosso modo, quand on pose la nourriture, on pose tout. Et les gens mangent, on essaye de tout poser devant les gens et ne pas ramener un par un les plats. L'idéal, c'est que quand tout est prêt, on pose tout devant les gens et les gens mangent de là où ils veulent, dans l'objectif de ne pas trop remplir son ventre, comme on a dit la dernière fois. وكان من سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدة. Il dit parmi le sunna de nos prédécesseurs, c'est que quand ils amènent la table, ils amènent tout. J'ai par exemple prévu deux plats, j'amène les deux plats ensemble. Et la personne va manger un peu ici, un peu ici. Peut-être elle préfère ce plat-là ou celui-là. Chacun, puisqu'on est plusieurs. ومن سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدة على المائدة ليأكل كل واحد مما يشتهي. Chacun mange de là où il a envie de manger. وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه. Si jamais la nourriture qu'il a, il a qu'un seul, il a amené par exemple un couscous, il y a rien d'après, il dit aux gens, c'est ça. J'ai amené. J'ai tout amené. On a un couscous et après, vous allez vous laver les mains. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Parce que les gens vont s'attendre à ce qu'il y aura autre chose, combien de plats. Donc, au moins, la personne, elle doit le dire. Aujourd'hui, je vous ai préparé un couscous. Bismillah. Al-Khamis. الرابع أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنه من الاستيفاء حتى يرفع الأيدي عنه. Donc, il ne se précipite pas. Par exemple, il a posé les fruits, ben il laisse les gens manger jusqu'à que personne n'en veut, et là, il les reprend. Et il ne faut pas qu'il les reprend avant qu'il y ait certains qui sont en train de manger. Donc, il vaut mieux laisser les gens finir chaque genre de nourriture. والخامس أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع ومراءة لا سيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكل الكل. Donc dit concernant la quantité, quand on a invité 5 personnes, je vais poser la nourriture pour 5 personnes, d'accord? Pas moins, pas trop non plus, pas trop plus de 5 personnes et pas moins, d'accord. وينبغي أن يعزل أولا نصيب أهل البيت. Il dit normalement, quand on invite des gens, on a prévu pour les gens, pour les membres de la famille aussi. J'invite pas les gens et je leur donne la nourriture de mes enfants. Ça, on l'a dit la semaine dernière aussi. Donc quand j'invite les gens, Alhamdulillah, j'ai acheté assez pour que mes enfants, mon épouse mangent aussi de la même nourriture. Ils ne mangent pas uniquement les restes, ils mangent de la même nourriture et que mes invités aussi mangent de la même nourriture. Pour que les yeux de ses enfants et de son épouse ne sont pas juste en train d'attendre ce que les invités vont laisser. Non, c'est pas. Il dit فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان ألسنتهم. Il dit peut-être après, quand les invités mangent tout, et que les enfants n'ont rien ou l'épouse n'a rien, elle peut avoir bien sûr un sentiment de et elle peut même dire des choses mauvaises, et elle a raison, parce que parfois donc la nourriture c'est quelque chose d'important. Adab al-insiraf, quelles sont les règles pour partir, sauf quitter le lieu? الأول أن يخرج من الضيف مع الضيف إلى باب الدار. Donc quand tu invites des gens et qu'ils veulent sortir, tu vas pas lui dire ah, vas-y hein, tu peux sortir. Non, hein, tu sors avec lui, tu lui ouvres la porte et tu sors avec lui quelque part et tu lui dis salam alaykoum. On appelle ça tashyi'u al-dhayf. Tashyi', c'est-à-dire c'est toi qui l'accompagne quelque part devant la porte et tu lui dis salam alaykoum et après il part. Pas le laisser tout seul ouvrir la porte et tu lui dis non, tu peux partir, tu connais le chemin. Non, ça c'est parmi l'ikram, c'est le honorer son invité, c'est agir de la sorte. Wa huwa sunna, le prophète Hassan l'a toujours fait. Wa dhalika min ikram al-dhayf, on vient de le dire. On appelle tashyi'u al-dhayf. وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. Il dit parmi les choses, parmi l'honneur d'un invité, c'est طلاقة الوجه. Tu l'accueilles avec un sourire. وطيب الحديث, avec une belle parole. Quand il rentre, avec une belle parole. Quand il sort, avec une belle parole. Et à table, avec une belle parole. Donc, il faut s'efforcer. Quand j'invite des gens, c'est pas juste s'asseoir et personne ne parle. Je m'efforce à aborder certains sujets, à discuter, et que la parole soit... qu'on parle de sujets importants, de sujets qui vont nous rapprocher, et non pas, je ne sais pas, si on a un conflit sur une question, il ne faut pas l'évoquer à table, d'accord ? Il ne faut pas que ça soit le moment de... Quand j'invite une personne, et si j'ai un différend avec cette personne-là, je ne veux pas parler de ce point-là. الثاني أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع. Maintenant, moi en tant qu'invité, mon frère m'a invité, il m'a offert la nourriture. Il a, alhamdulillah, acheté de la nourriture. Il a demandé à sa femme de la préparer. Il m'a accueilli chez lui. Peut-être, il n'a pas fait les choses à 100% comme il se doit. Il y a eu, je ne sais pas, la nourriture elle était trop chaude, ou je ne sais pas. Normalement, quand je pars avec un cœur sain. Et je remercie énormément mon frère pour l'invitation. Et même s'il y a des manquements, ben, ce n'est pas grave. Au contraire, il a fait l'effort pour m'inviter, ben, même s'il y a des manquements, en tant que musulman. Ça, c'est min husni khuluqil muslim. C'est parce que je suis un croyant et je suis un musulman et je dois avoir un bon comportement. Alhamdulillah, au contraire, je ne vois que les points positifs et je valorise que les points positifs. D'accord ? Malheureusement, aujourd'hui, tu as des gens, quand ils sortent de chez d'autres personnes, ils commencent juste à évoquer, ah t'as vu ce qu'il nous a fait, ah t'as vu il a pas amené ça, ou ça c'était comme ça, ou ça c'était comme ça. Non, subhanallah, on doit reconnaître l'effort des gens et les remercier, et même s'il y a des manquements, alhamdulillah, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça ne peut que participer à rapprocher les gens au fait de manger ensemble. Donc celui qui est invité doit garder que les bons moments. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith qui dit « Ma'aba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qattu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dans sa vie critiqué une nourriture, jamais. Quand on lui offre la nourriture, il remercie les gens, il mange s'il a envie de manger. Et s'il trouve quelque chose, c'est trop salé pour lui, c'est trop fade pour lui, il ne mange pas, mais sans jamais dire un mot sur la nourriture. Même la nourriture chez lui, même la nourriture de ses épouses. الثالث, أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه. La troisième chose, c'est de ne quitter le lieu que avec l'autorisation du propriétaire et sa permission. Donc aussi, par exemple, il sent que la personne, c'est bon, on a mangé, on a discuté un peu, et que la personne veut qu'on parte, tout de suite, elle dit, il va proposer pour savoir si c'est fini, on peut partir, il va essayer de partir le plus tôt possible. Sauf si la personne insiste, j'aimerais bien que vous preniez avec moi un café, j'aimerais bien que vous restiez un tout petit peu, on discute. Là, si tu sens que la personne veut et qu'elle a le temps et que elle sent que c'est bien de rester, là, il n'y a aucun problème. Mais, normalement, quand on a mangé, on peut se disperser. Sauf avis contraire. وَإِذَا نَزَلَ ضَيْفًا فَلَا يَزِدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Là aussi, c'est une règle, c'est que quand on est invité chez quelqu'un, quand on vient de loin et on est invité pour dormir aussi, Zayafa en islam, c'est 3 jours. 3 jours. On ne peut pas dépasser 3 jours. 3 jours. 3 jours, c'est déjà, alhamdulillah, c'est très bien. Donc, فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَ. Sauf si le propriétaire insiste avec sincérité, qu'il n'y a aucun problème, tu peux rester mon frère, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, firashun lil rajuli wa firashun lil mar'ati wa firashun lil dhaifi wa rabi'u lil shaytan. C'est un hadith kharaja un muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans une maison, il y a... Là, on est un peu tous hors sujet parce que... Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a un firash, un lit ou un endroit où dormir pour l'homme, un endroit où dormir pour la femme et un endroit où dormir pour l'invité. C'était tellement important l'invité qu'on lui prépare un endroit où dormir. Et après il dit وَرَابِعُ الشَّيْطَانِ, c'est-à-dire si tu as au-delà de 3 ou de 4 ou de 3 lits, 3 endroits où on peut dormir, ben le quatrième ça serait pour Shaytan. Sauf celui qui a des enfants, bien sûr, chaque enfant a son... Ce hadith-là, quel est l'objectif? L'objectif de ce hadith, c'est de nous dire il ne faut pas exagérer chez soi, il ne faut pas exagérer d'avoir beaucoup de meubles, avoir beaucoup de choses. Il faut vivre dans la simplicité. Ce hadith, il nous dit ça. Ce n'est pas une interdiction, pas du tout. C'est pas une interdiction d'avoir, 3 chambres ou 4 chambres avec... Parce qu'on reçoit des gens, il n'y a pas de problème. C'est juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à vivre modestement, vivre, être ce qu'on appelle aujourd'hui être un peu minimaliste, c'est-à-dire vivre selon les choses qu'on a et ne pas exagérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont énormément de choses alors qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Après, il parle de adab mutafarriqa. Donc d'autres règles. Il dit in al-akl fi as-souq tawadhu'un wa tarku takallufin min ba'd an-nas fa huwa hasan wa kharq muru'atin min ba'dihim fa huwa makruh. Donc dit manger au marché par exemple, manger à l'extérieur. Ça c'est manger à l'extérieur. Il dit pour certaines personnes, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Tu vas te manger à l'extérieur. C'est pas un problème, il ne faut pas toujours manger chez soi, on peut manger à l'extérieur, dans un restaurant, d'accord. Mais par contre, il dit, pour certaines personnes, pour d'autres personnes, peut-être quelque chose de déconseillé, selon la position de cette personne. « Wa huwa mukhtalifun bi'adati al-bilad » Donc là, il rentre un autre élément, c'est les « al-urf » C'est quelles sont les coutumes dans ce pays-là, dans notre pays. Donc, généralement, chez les Arabes, avant, on ne pouvait pas manger à l'extérieur. On ne pouvait pas manger à l'extérieur. Il faut manger chez soi, à la maison. Il n'y avait pas le fait de prendre un sandwich et le manger à l'extérieur. Avant, c'était quelque chose qui était contradictoire avec le moro, contradictoire avec la noblesse. D'accord. Mais il dit ici que ça change avec l'adat, avec le temps, avec l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, on sait qu'il n'y a pas de problème d'être à l'extérieur, par exemple, dans un restaurant ou à l'extérieur, ou prendre un sandwich, aller dans un parc, manger avec des enfants, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, c'est une... فَمَنْ لَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِسَائِرِ أَعْمَالِهِ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قِلَّةِ الْمُرُوءَةِ comme je viens de le dire, وَفَرْطِ الشَّرَهِ وَيَقْدَحُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَلِيقُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِي تَرْكِ التَّكَلُّفِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَوَاضُعًا. Donc, cette question-là, il dit qu'on la laisse selon les coutumes. Peut-être dans certains endroits, c'est quelque chose de complètement normal. Dans d'autres endroits, ça ne se fait pas. Un musulman doit s'adapter. Si tu es dans un pays où les gens ne mangent pas à l'extérieur, ne le fais pas. Ça peut être mal. Mais si tu es dans un pays où les gens peuvent manger à l'extérieur, tu peux le faire. Il dit la deuxième chose, يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت. Quand quelqu'un meurt, il est recommandé que les familles des voisins les voisins et les proches préparent la nourriture pour l'amener chez la famille du défunt. Et non pas le contraire. Dans certains pays musulmans, moi on le voit un peu dans nos pays par exemple, les gens ils viennent manger chez la famille du défunt, alors que c'est contradictoire avec la sunna. C'est pas toi, toi t'es un voisin, c'est pas toi qui viens manger chez la famille du défunt, au contraire, normalement c'est toi qui dois préparer un peu et l'amener à la famille du défunt pour soulager un peu leur souffrance. C'est des gens qui sont dans la tristesse et viennent de perdre un être cher, et en plus on leur demande de faire à manger, voilà, avec... Non, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand quelqu'un décède, les voisins, les proches préparent la nourriture et ils leur amènent la nourriture. Bien sûr, il y a des gens qui vont venir de loin. Des gens, par exemple, pour présenter les condoléances, vous avez des gens qui vont venir d'autres villes. Ces gens-là, ils doivent manger. C'est normal, parce qu'ils viennent de loin. Et c'est ces gens-là qu'on leur laisse la place pour qu'ils puissent manger. Et par contre, les gens qui habitent sur place ne doivent pas manger de la nourriture du défunt. Au contraire, c'est eux qui doivent amener la nourriture. Et ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Inna ala ja'far shughilou bi mayyitihim an sun'i ta'amihim, fahmilou ilayhim ma yakuloun. » Ala ja'far, ils avaient un mort, il dit « Shughilou bi mayyitihim, ils sont occupés par leur mort, par la tristesse. Donc, préparez à manger, amenez-leur à manger, et ne faites pas le contraire. » Donc ça c'est le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, celui-là. Et donc on doit faire la même chose. C'est pour ça que cette question, on la pose souvent. Si je suis invité, par exemple quelqu'un me dit « Viens, on fait un repas pour mon père qui vient de décéder, qui vient de mourir. Ou pour ma mère. Est-ce que je peux y aller ou je peux... » L'idéal c'est de ne pas... Parce que s'ils t'invitent particulièrement, et c'est une invitation parce qu'eux, ils ont les moyens, ils peuvent le faire, ils ont attendu, par exemple, une semaine, deux semaines pour le faire, c'est une invitation et tu peux participer. Mais ici, on parle du repas qui est fait le soir même. Le soir même, on fait un repas. Ou le lendemain, on fait un repas. Les gens font un repas généralement. Et ce repas-là, normalement, c'est pas la famille des défunts qui doivent le faire. الثالث لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الأطيب. Donc il dit la dernière règle, il dit on ne doit pas aller manger chez un homme injuste, parce que tu sais qu'un homme il est injuste, tout le monde le connaît par son injustice. C'est quelqu'un qui pratique des choses mauvaises, d'accord, et qui t'invite. Il dit, si tu peux décliner l'invitation, c'est mieux. Et si tu te sens obligé d'y aller, au moins ne mange pas trop. Ne mange pas de la nourriture que tu aimes. Mange un peu, mais ne mange pas trop et ne mange pas de la nourriture que tu aimes particulièrement. Voilà, avec ces quelques règles-là, qu'on a fini cette partie-là de Adab al-Diyaf. Aujourd'hui, donc, on commence Adab al-Nikah, les règles du mariage. Les règles du mariage. Donc, dans ce livre-là, comme je vous ai dit, il y a la première partie, c'est l'ibadat. On a fini l'ibadat. Et là, on est dans l'adab. Et après, le deuxième livre, on va s'attaquer à la partie spirituelle. Mais là, c'est des choses que l'adab, que les règles de bienséance islamique. Donc, le mariage. Al-targhib fi nikah. Le fait, l'islam nous encourage à se marier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wankihu l'ayama minkum. L'ayama, c'est les femmes qui ne sont pas mariées. Ben, mariez-vous. Il incite les gens à se marier. Parce que le mariage, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Fala ta'buruhun an yankihna azwajahun. Un jour, il y avait un compagnon jeune qui a marié sa sœur à son copain. Et ils se sont mariés, sont restés un certain temps ensemble. Et après, il l'a divorcé. Le copain a divorcé la sœur. Et ça, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, elle est restée plus de trois cycles. Juste trois cycles. C'est-à-dire, la période de viduité, elle est passée. Et son mari regrette. Il a regretté le fait de divorcer avec sa femme. Ben, il est revenu pour demander sa main. Parce que quand on dépasse la viduité, quand on dépasse la période de viduité, les trois cycles, ben, il faut un autre mariage. On va demander la main à la femme et son wali accepte ou pas, elle l'accepte ou pas, et on va lui donner une nouvelle dot. Par contre, si on reprend son épouse pendant les trois cycles, pendant la période de viduité, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de shuhud, il n'y a pas un nouveau aqd. Donc, mais le divorce, il compte. Hein. Attention. Parce qu'il y en a qui croient que j'ai dit à ma femme, tu es divorcée. Du moment où tu dis cette parole-là, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire cette parole. D'accord ? Il ne faut jamais la dire. Sauf si vraiment ça y est, tu sais que c'est. Mais il y en a qui le disent comme ça, par dans la colère et juste pour menacer. Non, tu ne dis pas cette parole. Parce que cette parole, elle compte. Du moment où tu dis à ta femme, tu es divorcé, ben, le divorce compte. Une fois. Ça y est. Et donc, même si tu la reprends pendant les trois cycles.
Tu as vu le délai, c'est combien?
Trois cycles.
C'est combien de temps?
Trois mois à peu près. C'est la femme, elle va compter les cycles. Parce que tu ne peux pas divorcer avec ta femme si elle est en période de menstru. C'est interdit. Et tu ne peux pas divorcer avec ta femme pendant une période si elle n'est pas. Si elle est pure, mais qu'il y a eu une relation. Ça, c'est interdit. Quand est-ce que le divorce peut se faire? C'est quand ta femme, elle est pure, d'accord? Elle n'a pas ses menstrues, et qu'il n'y a pas eu de rapport depuis la dernière, la dernière purification. D'accord? C'est-à-dire que l'islam, il nous demande, quand on veut divorcer, qu'il n'y a pas d'attirance, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de fond entre les deux pour divorcer. Faut pas divorcer juste comme ça alors que hier on était ensemble et aujourd'hui là il était divorcé. Non, l'islam, c'est une religion qui nous incite. Le divorce, c'est un acte conscient. C'est pas avec la colère aussi. Non, c'est un acte. Ça y est, moi je sais que la vie est devenue impossible. Et que j'ai fait des efforts, et j'ai fait des réconciliations, et ça n'a pas fonctionné, ça y est, je sais que c'est. Et c'est là où je dois le prendre. C'est à ce moment-là. Et je dois choisir le moment propre. Shar'i. Sinon, le talaq est bid'i. C'est-à-dire, chari, c'est-à-dire, je dois le faire pendant le moment que je viens de citer. La femme n'a pas ses menstrues, n'est pas en période, et depuis la dernière fois, il n'y a pas eu d'acte. D'accord ? Et ça, c'est le moment. Ou la femme est enceinte. Parce que quand elle est enceinte, oui, elle est, on peut divorcer. Quand la femme est enceinte, on peut divorcer. Et quand la femme est enceinte, c'est quoi la période de viduité ? C'est la naissance. D'accord ? Si par exemple lui restait 5 mois pour que l'enfant naisse, bah, cette période, c'est la période de viduité. Et pour une femme normale, qui n'est pas enceinte, la période, c'est 3 cycles. On commence à compter le premier cycle, le deuxième, le troisième. Sachant qu'on s'est divorcé pendant une période où elle était pure, et non pas. Donc, le frère dit à son copain, « Ah, tu te souviens quand il est venu me demander la main de ma sœur et j'étais considéré, et j'étais donné ma sœur, et tu l'as malgré tout divorcée, alors qu'elle n'avait rien fait, et tu viens maintenant me demander, Wallahi, tu ne l'auras jamais. » Il m'a dit, « Tu ne l'auras jamais. » Allah a révélé ce verset. Alors que là, sa sœur, elle voulait revenir. Sa sœur, elle voulait revenir avec son mari. Ça ne sert à rien de... Et son frère lui dit, non. Sa sœur lui dit, je veux revenir avec mon mari, pourquoi tu m'empêches ? Il lui dit, c'est moi, parce que si elle est revenue pendant la période de viduité, elle lui demande même pas l'autorisation à son frère. C'est ça, c'est son mari qui décide. D'accord ? Maintenant, ils ont laissé cette période passer. Le frère, il a... son mot à dire, c'est le wali. C'était son wali, son père, il est décédé. Donc il lui dit, Wallahi, je ne te la donne pas. Alors Allah a révélé, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Ne les empêchez pas de se remarier avec leur أَزْوَاجَهُنَّ, leur mari. Parce que, vous voyez, donc ce verset-là, il nous montre que le mariage, c'est... Le wali ne doit pas être un obstacle. Le wali ne doit pas être un obstacle pour le mariage. Un père, quand il voit que sa fille veut quelque chose de bien et qu'elle est sur le bon chemin, et qu'elle ne va pas faire... il ne doit pas l'empêcher. Au contraire, il doit l'aider. Il doit l'aider pour se marier. Au contraire, quand tu lui dis pas, non, t'es encore jeune, t'as 24 ans, t'es encore jeune. 24 ans, elle peut se marier. 20 ans, elle peut se marier. D'accord. Et c'est une protection en plus. Une protection. Si elle veut se marier, c'est... Bien sûr, on a une responsabilité en tant que parent. On a une responsabilité. C'est pas juste comme ça. Ben, je dois aussi m'assurer que cette personne-là, cet homme-là, c'est quelqu'un de bien, qui va prendre soin d'elle, qui va l'honorer, qui va vraiment être là pour elle. C'est pas juste une relation de passage. Mais on a le devoir d'accompagner nos enfants, de les aider à... Quel bonheur pour un musulman, ici, surtout ici en France, de trouver, alhamdoulilah, un musulman qui lui demande la main de sa fille pour s'installer, pour se marier. Ben, c'est une très très bonne chose aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de musulmanes restent célibataires, ou on voit aussi, ça c'est un phénomène qui grandit énormément, c'est de se marier avec des non-musulmans. Ça existe, malheureusement, ça existe. Et pourquoi ? Je dis, moi, j'ai pas trouvé. Ou peut-être elle était mieux mariée avec un musulman, et ça s'est mal passé, parfois. Donc, c'est un phénomène aujourd'hui. Moi, je le constate énormément. Je reçois énormément de personnes dans cette situation, malheureusement. Pourquoi ? Peut-être les parents n'étaient pas là au bon moment pour les accompagner, pour leur faciliter. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Vous n'avez pas le droit de les empêcher à revenir avec leur mari. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Là, dès que ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité, le frère dit, vas-y, marie-toi avec ton mari, j'ai rien à dire. Et c'est ça les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils reçoivent l'ordre. سَمِعْنَا وَطَعْنَا وَكَاللَّهُ فِيكُمْ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Donc regardez, même la prophétie, même un prophète, Allah, la majorité des prophètes étaient mariés et avaient des enfants. La majorité. À exception en fait, Issa et Yahya. Issa, Allah l'a élevé jeune, 33 ans. Yahya est mort jeune. Et donc, mais tous les autres, Ibrahim, alayhi salam, Nuh, alayhi salam, Lot, alayhi salam, tous les prophètes, Ishaq, Yaakov, et puisque les prophètes pour nous sont des modèles à suivre, les prophètes, c'est nos modèles. Allah nous dit, même les prophètes, Allah leur demande de se marier pour qu'ils soient pour vous un exemple à suivre. Et le mariage n'est pas incompatible même avec la prophétie. Même avec la prophétie. Regardez comment l'islam, alhamdulillah, Allah nous a donné la belle religion de l'islam, c'est Allah nous incite à se marier. Parce que le mariage c'est une nécessité pour l'homme et pour la femme. Alhamdulillah. Et regardez les chrétiens par exemple, ils vont faire un vœu de célibat. Hein, les sœurs chrétiennes ne se marient pas. Et les prêtres et les évêques ne se marient pas. D'accord ? Ils te disent, moi je me consacre à Allah subhanahu, à Dieu. Et ils ne se marient pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à nous, il nous dit, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même les prophètes, même les plus grands compagnons qui étaient les plus, qui ont le niveau de la foi le plus élevé, Allah leur demande de se marier parce que le mariage c'est quelque chose qui est en nous, qui est humain, qui va donner à l'homme sa stabilité et à la femme sa stabilité. D'accord ? Parce qu'ils te disent, moi je veux me consacrer à Dieu, et ils considèrent que le mariage, c'est comme si c'est quelque chose qui est incompatible. C'est pas quelque chose qu'un être humain doit faire parce que c'est des choses. Alors que, au contraire, le mariage, ça fait partie de notre spiritualité en tant que musulman, de trouver cet équilibre-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié, et c'est notre exemple sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'en islam, il dit le Coran dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَرَهْبَانِيَةً un monachisme ابْتَدَعُوهَا ils l'ont inventé مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Allah ne leur a jamais demandé de se consacrer ou d'être célibataire ou, jamais. D'accord. Ils veulent être encore plus proches d'Allah. D'accord. Ils lui ont pas donné les conséquences. C'était pas à la hauteur. Ils n'étaient pas à la hauteur. On le voit aujourd'hui, malheureusement. On le voit dans notre société. Les dégâts que peuvent.
Cher Abdullah, ils ne se marient pas et après ils font des dégâts avec
voilà,
les enfants.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Ils ont fait halal avec les enfants.
Subhanallah. Et parce que c'est un manque d'équilibre.
Subhanallah. Tu ne te maries pas, tu vas faire n'importe quoi.
Halal, tu le laisses. Halal qui est clair. Et tu fais un vœu et tu n'es pas à la hauteur de le faire. Et regardez les dégâts qui mais. Quand on va à l'encontre de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà les conséquences. C'est pour ça qu'Allah nous dit فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا Ils n'étaient pas à la hauteur de leurs engagements. Tu t'engages sur quelque chose, il faut que tu sois à la hauteur. Mais beaucoup parmi eux ne sont pas à la hauteur de cet engagement-là. وَمَدَحَ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ قَالْ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين et ceux qui disent Seigneur donne-nous parmi nos épouses et nos enfants la joie de nos yeux. Donc un croyant demande à Allah de lui donner une épouse et des enfants qui seront la joie de la vie. Et en réalité c'est ça, la joie de la vie c'est d'avoir une épouse et des enfants. وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني النكاح c'est le mariage c'est ma sunna celui qui délaisse ma sunna me délaisse فقد رغم عني. Celui qui délaisse ma sunna, il me délaisse moi. وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. Il dit صلى الله عليه وسلم en s'adressant aux jeunes que celui parmi vous qui a les moyens de se marier qu'il le fasse. Ça ne sert à rien de le retarder ou de dire bah, t'as les moyens, tu te sens prêt, bismillah, engage-toi parce que le mariage c'est ton équilibre, tu recherches ton équilibre. Bien sûr, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. C'est un engagement pour la vie. Quand tu t'engages pour la vie. Celui qui s'engage, il dit « Ah, bah, je vais faire un test, ou je vais m'engager pour 4 mois », son mariage n'est pas valable. C'est haram. Pour lui, c'est haram. D'accord ? C'est celui qui fait... Ça, c'est un mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est zina. Il n'y a pas de différence pour nous.
Cheikh Abdallah, et en plus, on a le droit de se marier avec 4 femmes. Oui. Allah nous a donné l'autorisation, subhanallah, 4 femmes.
Exactement.
Si on est juste, bien sûr.
Il faut être à
si,
la hauteur.
Hein. Si, on a les moyens, si on a les moyens.
Ouais, vraiment être à la hauteur. Mais, oui, ça c'est... Mais...
Au moins, tu ne fais pas de bêtises.
Man istata' amikum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a les moyens, bien sûr qu'il faut pouvoir assumer. Ah, tu ne vas pas te marier alors que tu n'as même pas de toit. Il faut avoir un minimum pour aller voir un homme et lui demander sa fille.
Allah la zak.
Il faut pouvoir assumer derrière. D'accord ? Mais pas forcément être riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit attendez que vous soyez riche pour vous marier. Al-ba'a, c'est assumer. Assumer une fois. Pouvoir assumer. Pouvoir assumer ça de son épouse. D'accord ? فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Cela est, permet de baisser de son regard. Quand, alhamdoulilah, Allah t'a donné une épouse, ben, ça t'aide énormément. Quand on est jeune, son mariage, ben, c'est un peu humain. On est tous humains. D'être attiré, même si on fait des efforts, même si on jeûne, mais c'est... Bon, ça nous donne la deuxième solution, c'est de jeûner. Mais le mariage, c'est un moyen, alhamdoulilah, qui nous permet de trouver son équilibre. Le mariage, c'est la moitié de la religion. Nous dit le prophète dans un hadith. فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِي مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِي. Celui qui se marie, il accomplit la moitié de sa religion. Pourquoi ? Parce que c'est l'équilibre. Rechercher, tu trouves ton équilibre. À travers le mariage, à travers ce partage. Ou ahsanou les farges, il te permet de te préserver physiquement. Celui qui ne peut pas se marier, qu'il multiplie le jeûne. Notamment pour les jeunes, ils doivent jeûner beaucoup parce que c'est un wija. Wija veut dire protection, bouclier. C'est comme un bouclier.
Et cher Abdallah, il faut faire beaucoup les enfants pour que les enfants ils adorent Allah.
Exact, ça c'est.
Si on ne se marie pas, on peut pas.
Les enfants pour toi c'est la continuité de ton propre existence.
Il faut faire beaucoup d'enfants.
Charge. Bien sûr, c'est. Il faut, on va en parler.
Beaucoup
les enfants.
Plus adorer Allah.
Et les enfants, regarde, Allah est généreux avec nous. Et quand tu as plusieurs enfants, tout ce que tes enfants font, ils font en prière, ben, toi tu es dans ta tombe et tu reçois de leur hasan. Tu reçois une partie de leur hasan. Et, alhamdoulilah, tu ne reçois pas le sayyid. Heureusement, hein, tu ne reçois pas les péchés que tes enfants font, mais toutes les hasanats, tu les reçois. Sauf dans un cas où tu étais toi-même à l'origine de leurs péchés. Si c'est toi qui les as incités, par exemple, à faire une affaire haram et que tu étais à l'origine, ils continuent à le faire, ben tu reçois de leur péché aussi, de leur haram. Mais si ce n'est pas toi, alhamdoulilah, tu reçois de leur hasanat et tu ne reçois pas de leur sayyiat. Donc nos enfants, c'est la continuité de notre existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kullu amal ibn adama yanqati' illa thalath. toutes les œuvres de Ibn Adam vont s'interrompre. Quand tu meurs, c'est fini. Ça y est. Tu n'as plus le moyen d'agir. Tu n'as plus le moyen d'avoir des hasanat. Sauf trois choses. Et parmi les trois choses, wa waladun salihun yad'ullah. Tu as un enfant qui est pieux, qui prie, qui fait des invocations. Généralement, nous, quand on fait la prière, la première personne à qui tu penses quand tu fais du'a, hein, à qui?
Les enfants.
Ton père.
Ton père, ta mère.
C'est les deux. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Normalement, cette invocation, on doit le dire à chaque sujoud. Chaque sujoud, tu dois dire Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ça, c'est la reconnaissance, le minimum de la reconnaissance pour tes parents. Qu'ils soient en vie ou qu'ils soient partis. Tu dois leur faire des invocations. Et à chaque fois quand tu fais des invocations, ben, tes parents reçoivent des hasanat. Donc, en tant qu'être humain, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Mais si quelqu'un, par choix, il n'a pas voulu avoir d'enfant, ben, ses amen, ses actes s'arrêtent avec sa mort. Ça y est, c'est fini. Sauf s'il a fait autre chose, les deux autres choses,
sadaqa
jariya, ilmun yuntafa'u bihi, une science utile, une sadaqa jariya, il a construit une mosquée, on l'a fait, mais walad salih, c'est accessible à tout le monde. L'ilm, c'est que pour les savants. Le sadaqa jariya, c'est pour les riches, mais alors les enfants, alhamdulillah, même pauvre, tu peux avoir des enfants, alhamdulillah, ils vont.
Subhanallah.
Wa walad salihun yad'u lah. Et on n'aura pas d'enfant sans un nikah, sans le mariage. Hein, parce que justement, il ne faut pas faire un enfant en dehors du cadre du mariage. Parce que là, c'est un péché énorme. Un péché énorme. C'est qui nécessite taouba, bien sûr. Quand on dit un péché énorme, ben, il nécessite une taouba de la part de la personne. Et
ils peuvent se remarier.
Oui, tout à fait.
C'est ça,
hein? Ah oui, oui,
ils peuvent se remarier et s'ils font tout bas.
Exactement.
Et Allah, Rahman et Rahim.
Exactement, tout à fait. Selon la sincérité de la tauba,
oui.
Allah efface, Inch'Allah.
Oui.
Et donc, on conseille à ces gens-là de se séparer un mois et de se marier, de régulariser leur
situation. Et les enfants, c'est les enfants de la zina, c'est con.
Non.
Comment ça se passe?
S'ils sont reconnus par leur père.
Oui.
S'ils sont reconnus, que l'acte de naissance est reconnu par le père,
alors savants. Il ne faut pas dire c'est les enfants de la zina.
Non, il ne faut pas le dire. Les enfants restent les enfants reconnus par leur père. L'enfant de zina, c'est l'enfant qui n'est pas reconnu par son père.
D'accord.
Donc, Mahia Fawahidou An-Nikah. Il reste combien de temps?
3 minutes.
Les objectifs et les intérêts du mariage. La première chose à travers le mariage, c'est les enfants. Pour nous musulmans, le premier objectif du mariage, c'est la continuité de sa propre existence. Avant même de penser à son équilibre personnel, à son besoin personnel, à cette... Non, les enfants sont l'objectif numéro un du mariage. Et c'est pour ça qu'on se marie.
Pour continuer la religion.
Exactement. Et pour que...
La religion continue.
Et pour que tes enfants aussi soient musulmans et qu'ils transmettent aussi la voie de l'islam, ça aussi, il faut avoir l'intention. Il faut avoir cette intention-là. Wal maqsoud wa lahu wudi'a an-nikah. Wal maqsoud ibqa'u an-nasl. Et il dit wa innama khuliqat ash-shahwatu ba'ithatan mustahithatan. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses d'une manière agib, c'est quelque chose de miraculeux. Allah a créé cette attirance naturelle entre l'homme et la femme. C'est quelque chose qui est naturel, mais qui va, et selon cette attirance naturelle, ben, alhamdulillah, Allah a fait en sorte que c'est cette attirance qui donne par la suite les enfants. Et que ce lien entre l'homme et la femme qui va donner des enfants. Donc il faut que ce lien soit dans la légalité, et donc l'être humain, il va retrouver son plaisir personnel, mais quelles sont les conséquences? Ben, c'est les enfants. Il dit, les enfants, c'est une qurba, c'est une, la proximité d'Allah. Et il donne quatre éléments. وهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجماهير وهو حقها وأقواها يدي أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحرث مهيئ له أرضا مهيئة للحراثة وكان العبد قادرا على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعا حتى فسد ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقا للمقت والعتاب من سيده. الله سبحانه وتعالى donc nous a donné tous les moyens pour avoir des enfants. Et si nous on peut avoir des enfants et qu'on le fait on ne fasse pas, ben c'est un peu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith تزوجوا تناكحوا تكاثروا, il dit mariez-vous et ayez des enfants, parce que le jour du jugement dernier, je serai heureux de vous voir nombreux. Et la troisième chose, c'est qu'il restera après lui un enfant qui va lui faire des invocations. Et la quatrième chose, c'est que طلب الشفاعة بالولد بموت الولد الصغير. Donc, comme vous le savez, celui qui perd un enfant et qui patiente, qui perd un enfant jeune, petit, et qui patiente, cet enfant-là sera pour lui un intercesseur, comme on le sait, on l'a dit dans plusieurs hadiths, à condition d'avoir la patience, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que cet enfant viendra te chercher, même si tu es destiné à l'enfer, l'enfant te prend par la main, et il demande à Allah, c'est mon père, pardonne-lui, même si, normalement, on va dire, tu devais passer quelques années en enfer, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'intercession de ton enfant, parce que tu t'es patient, Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette intercession.
Cher Abdelma, les gens ne veulent pas faire des enfants par rapport au travail, la vie est chère, c'est dur de les élever.
Exactement. Alors subhanahu wa ta'ala, il répond à ça.
C'est nous qu'on les... Comme vous, comme vos enfants.
Exactement. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il y a deux. Dans un verset, Allah dit « Nahnu narzuqukum wa iyyahum » et dans un autre verset, il dit « Nahnu narzuquhum wa iyyakum » On leur donne, c'est pas toi qui va donner la nourriture. Bien sûr, il faut les enfants, il faut pas croire que c'est toi qui va leur donner à manger ou à boire ou comment les habiller. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, c'est le plus grand plaisir.
N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, exactement, subhanallah. الله نود إن شاء الله لزوجك سبحان الله جواد المطربي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شكرا شيخ عبد الله بارك الله فيك. Il a résumé la vie comment dire en tant que musulman. Comme ça, c'est ça qu'on appelle humain. Un peu banal pour notre religion, adorer Dieu sur les parties comme moi, lesquelles c'est pire. Cela vous inquiète au son. Le problème, c'est sinon, si on fait que la procréation de là, qu'il y a le mariage, le décès, comment tu fais la voie ? Je vous dis, c'est nécessaire, franchement, de comprendre la religion réelle. Sinon, quand on refait ça, nous ne pouvons pas tourner l'outil. La plupart d'entre nous, ils font ça de la route ou qu'ils courent après ça. Parce qu'il nous faut, il a comprendre comment vivre. C'est pas interdit de se marier, c'est pas interdit de danser, c'est pas interdit de faire n'importe quoi, ce qu'il a dit. Par contre, ça n'a pas le hayat, il a dit ça, le Bouddha pour vivre dans cette vie, il faut utiliser ce qu'il y a dans la vie. Mais il y a ça comme ta chose, ça doit être pour l'Illah. Voilà, vous l'avez dit, il a parlé comme ça. Comment le comportement, comment quelqu'un est invité. Voilà, qui fait un def adab. Voilà, vous avez dit, mout, le hayat, zawaj, tarbiyat, l'oulad, l'oulad, l'assez. C'est quoi l'objectif du mariage? Et pas l'objectif. Et c'est ça, dit, t'en es chouani, ou là où on a besoin. Alhamdulillah, Les piliers, 5 piliers. Et les pieds sont. L'islam est basé sur 5 piliers. Bâti sur 5 piliers. A nous les piliers, sage. Et nous l'islam.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Allahu Akbar, la